Un ensemble d'organisations dénonce la bombe sanitaire pendant ce confinement dans les foyers d'immigrés et dans les centres de rétention administrative, à savoir prison pour sans-papiers, qui sont restés ouverts pendant la crise du Covid-19, malgré les cris d'alarme des personnes enfermées faisant état d'une propagation du virus sans aucune mesure de protection. Les principales revendications sont la régularisation de tous les sans-papiers, la fermeture des CRA, CRA, centres de rétention administrative, et la suspension des loyers des foyers pour les mois de mars, avril et mai. Les frontières prétendument fermées pendant ce confinement n'ont pas empêché que l'État français continue d'expulser des personnes pendant ces derniers mois. Pour nous parler donc de la situation dans les CRA, donc centre de rétention administrative et dans les foyers, nous avons contacté Monsieur Anzouman Sissoko, porte-parole du CSP 75, donc le comité des sans-papiers d'Île-de-France. Et puis ensuite, nous entendrons donc Monsieur Roland Diagne, qui est lui porte-parole du CSP 59, donc le comité des sans-papiers du Nord, pour une explication de la situation plus locale.
Alors moi je m'appelle Sissoko Anjouman, je suis le porte de la coordination 75 des sans-papiers et aussi l'un des porte-parole de la coalition internationale de sans-papiers et migrants qui est aujourd'hui dans 10 pays en Europe et 7 pays en Afrique.
Tout contact parce qu'on est en pleine crise sanitaire du coronavirus et un bon nombre d'organisations ont signé un appel concernant les foyers, les centres de rétention administrative, les sans-papiers et parlent d'une bombe sanitaire. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez revenir sur ce que sont ces foyers, ce que sont ces centres de rétention administrative, qui y vit, qui y sont enfermés et pourquoi ?
Les centres de rétention administrative, c'est le lieu où on met les sans-papiers une fois contrôlés dans les rues de France, qui sont dépourvus de titre de séjour. On les amène au centre de rétention administrative, le temps de faire des démarches pour les expulser dans leur pays d'origine. Donc c'est un lieu de privation de droits, parce que c'est un lieu où on parque les gens et ils sont tous dans un même endroit. Ils sont tous confinés ensemble, quoi. Il ne suffit qu'une personne est contaminée, que tout le reste des gens du secteur soit contaminé, parce qu'ils sont tous ensemble dans le même endroit.
Il y a 24 CRA en France et tous ont continué à fonctionner. Alors, il y a eu des réactions à partir du 16 mars, donc date du confinement, de la part des personnes étant enfermées à l'intérieur et de la part des soutiens. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur ces réactions par rapport à ce que vous venez de décrire du risque sanitaire à être enfermés tous ensemble ?
Ces réactions sont normales et sont justes aussi parce qu'elles sont compréhensibles dans la mesure où ces lieux sont des lieux vraiment où on parque les gens et que il n'y a pas d'autre possibilité de confiner les gens séparément avec les autres. Donc c'est pour ça, les gens qui sont dans les cas de Vincennes par exemple ou de Mini-Lamello se sont révoltés en disant que c'est mieux qu'ils soient libres pour être confinés avec leur famille. Et il y a aussi des associations qui sont dans les centres de rétention administrative qui apportent des soutiens logistiques en termes de droits aux migrants dans les centres de rétention, ont aussi alerté le pouvoir public que ce serait mieux de fermer ces centres de rétention le temps du confinement. Ils n'ont pas été entendus et il y a eu pas mal de choses qui se sont bougées. Même nous, au niveau parisien, on avait une manifestation qui était prévue le 21 mars qui finalement n'a pas eu lieu parce qu'on était dans le confinement, où nos revendications c'était de fermer les centres de rétention administratifs le temps du confinement. Personne n'a été écouté, le gouvernement est resté sourd et voilà, on est actuellement dans cette situation, il continue, d'après les informations qui nous reviennent, il continue malgré tout ça à expulser les gens pendant cette période de confinement, à l'insu de tout le monde. Ouais. Donc ça c'est quand même quelque chose de ne pas, c'est pas juste quoi.
Oui, on a même entendu parler de certains exemples, notamment les détenus du centre de rétention administrative de Lille, qui, dès le 13 mars, donc même avant la date de confinement, alertaient sur le cas d'un coronavirus. Et ils ont entamé une grève de la faim. Donc même malgré des réactions aussi fortes comme la grève de la faim, il n'y a pas eu de réponse en retour.
Non, malgré la grève de la faim, malgré les manifestations, il y a certains endroits même qui ont été brûlés. Ils ont déplacé pour aller dans d'autres lieux, pas très loin. Ils n'ont pas voulu fermer directement les centres de rétention pour ainsi donner la possibilité aux gens de se confiner avec leur famille. Donc ce sont des choses qui sont inadmissibles dans un pays comme la France aujourd'hui, où on essaye de maintenir quoi qui arrivera aux sans-papiers, aux migrants et aux réfugiés. Et le risque d'être contaminé, on le maintient en rétention quand même. Et ça c'est des choses que nous continuons à dénoncer. Et d'appel, on fait un appel à tout le monde pour une manifestation le 30 mai, parce que le confinement va finir le 11. Et on appelle à tous les citoyens français, parce qu'actuellement, il y a eu beaucoup d'appels, même des élus, des parlementaires qui appellent à la régularisation des sans-papiers pour des raisons sanitaires, même s'ils n'appellent pas de la même manière que nous. Donc c'est le moment est vraiment venu pour faire une mobilisation le plus large possible et dénoncer le comportement du gouvernement et demander non seulement la fermeture des centres de détention, la régularisation de tout le monde. Et les foyers sont les endroits les plus... pire encore que les centres de rétention, parce que les gens sont souvent confinés à 5, 6, voire 6, 7 personnes dans des 8 mètres carrés. Et imaginez, il y a 600 000 sans-papiers en France qui sont confinés dans des conditions comme ça, qu'à partir du 11, ils seront libres. Donc le gouvernement n'anticipe pas pour faire des tests à grande échelle dans les foyers, donner des masques, des gants et des gels dans les foyers, ils font rien. Et tout ça, nous appelons à cette manifestation pour que tous les Français nous soutiennent dans ces revendications, notamment la fermeture des centres de rétention, la régularisation inconditionnelle et immédiate de tous les sans-papiers, et aussi la suspension des loyers dans les foyers pour les 3 mois de confinement, notamment mars, avril et mai.
Ben, mon nom c'est Roland Diagne et je suis porte-parole du comité des sans-papiers 59, membre de la coordination nationale des sans-papiers historiquement et depuis 1996, donc ça fait 24 ans quoi. Le comité des sans-papiers c'est un comité qui est né, 59, qui est né exactement en août, le 23 août 1996. Après une première lutte de sans-papiers, soutenue par un réseau d'associations, de sans-papiers, parents d'enfants français, soutenu par un réseau associatif à l'époque, courant juin. Et au cours de cette lutte-là, que d'autres sans-papiers de différentes catégories sont venus se greffer à ce mouvement autour des parents d'enfants français, ils étaient 13, qui avaient fait une grève de la faim, et que ce sont ces sans-papiers qui, à la suite de la victoire avec l'obtention de la carte d'asile de 10 ans, que ces sans-papiers ont créé le comité des sans-papiers de Lille à l'époque, qui est devenu par la suite comité des sans-papiers 59 du département du Nord de la France.
J'imagine que le comité des sans-papiers 59 est en lien avec toutes les personnes vivant en foyer et aussi des personnes qui sont enfermées en centre de rétention administrative. Alors, sur le Nord-Pas-de-Calais, on compte un CRA à Coquel, près de Calais, et 2 sites à Lesquin, près de Lille.
Lesquin.
Ouais. Mmh. Est-ce que vous pouvez un peu revenir sur la réalité de ces foyers et de ces CRA?
En général, c'est des centres d'enfermement. La particularité de Coquel par rapport, ou la différence de Coquel par rapport à Lesquin, c'est sur place qu'on peut organiser directement, en fait, une forme d'enfermement particulier, quoi. C'est la grande différence. Ceci dit, Coquel se situe plutôt dans le Pas-de-Calais, et Lesquin, c'est plutôt le nord, quoi, concrètement. Après, maintenant, en fait, rien n'empêche, malgré le fait qu'il y ait 2 préfectures là, mais comme c'est une préfecture de région, Lille peut enfermer facilement dans le Pas-de-Calais, quoi, concrètement. Depuis la pandémie, la particularité, c'est que L'équin et Coquel a été en partie vidé, notamment suite à un mouvement interne où les gens, les sans-papiers qui étaient enfermés là, vous voyez les policiers qui les encadraient ou les surveillaient plutôt, eux avaient des précautions, à savoir ils avaient des gants, des masques, etc. Et ils n'avaient absolument rien du tout dans le cadre de l'enfermement. Donc ils ont commencé à bouder tout simplement les repas. D'aucuns ont véhiculé qu'ils ont fait grève la faim, mais en fait, ils ont clairement dit que nous refusons de manger dans ces conditions-là. Ils n'ont pas déclaré une déclaration de grève la faim, mais ils ont dit clairement qu'on refuse de manger dans ces conditions-là, très clairement. Et ensuite, le juge de liberté a libéré, on estime à peu près une soixantaine de personnes à l'époque, un peu plus de 60 à 70 enfermés là. Eh bien, il en restait 7 au début du confinement. À peu près 7, ouais, 6 ou 7 au début du confinement, concrètement, ce sont les informations qu'on a eues. Depuis lors, en fait, on n'a pas eu de retour du centre de rétention. Alors, on ne sait plus exactement s'il y a des gens dedans, etc. Et comme on ne peut plus, avec le confinement, se déplacer pour aller voir un peu concrètement. Donc, la seule méthode pour vérifier ça, c'est d'utiliser les téléphones, d'appeler sur les téléphones fixes qu'il y a à l'intérieur des différents blocs du centre de rétention de Quin, quoi, pour... Voilà. Mais les comités, les sans-papiers du comité des sans-papiers 59, il n'y a personne qui est en centre de rétention actuellement.
J'ai vu passer un communiqué signé par un bon nombre d'organisations qui dénonçaient une bombe sanitaire. Donc vous en avez un peu parlé là, dans les centres de rétention administrative, également dans les foyers, avec un bon nombre de revendications. Vous, au niveau du comité sans-papiers 59, quelles ont été vos prises de position par rapport à ces situations en temps de confinement et aussi de manière plus générale sur les conditions en foyer et en centre de rétention?
Alors, nous, dès le comité des sans-papiers, dès le... La veille même, nos assemblées générales, c'est le lundi à partir de 18h. Donc la veille même du lendemain, ou le lendemain, en fait, le président de la République a annoncé le confinement général. Très concrètement, nous avions donc décidé en assemblée générale, là on était réunis, c'est la dernière fois qu'on s'est réunis en assemblée générale de visu, de physique, quoi. De suspendre les assemblées générales physiques, donc de respecter le confinement, de suspendre. Là, ça, c'est la particularité du comité des sans-papiers 59, c'est que depuis 24 ans, tous les mercredis, place de la République, face à la préfecture du Nord, nous sommes là. Qu'on soit 10 sans-papiers ou 1000 sans-papiers, parce qu'il est arrivé d'être 1000 sans-papiers, eh bien, on est tous les mercredis, depuis 24 ans, devant la préfecture, mercredi, 18h, à partir de 18h, devant la préfecture, pour manifester, quoi, en fait, et réclamer la régularisation. Voilà. Donc, on a suspendu ça aussi, cette action du mercredi. Très clairement. Ensuite, on a mis en place effectivement un système WhatsApp. Tous les sans-papiers qui sont avec WhatsApp de communication et donc le bureau s'est organisé en système de WhatsApp et la masse des sans-papiers en a 200 qui sont aussi sur un groupe WhatsApp. Donc ça permet de continuer à communiquer entre nous, très clairement, et aussi surtout d'organiser effectivement dans le cadre du confinement la poursuite de la lutte sous d'autres formes. La forme par exemple de la solidarité en direction des hôpitaux, des soignants. Donc des repas ont été organisés par groupe de sans-papiers. Ils ont organisé des repas, puis ensuite on a organisé effectivement la distribution de ces repas en direction comme acte de solidarité du comité des sans-papiers en direction des soignants. Organisé aussi effectivement par le biais des contacts associatifs la lutte contre l'isolement des personnes isolées par le téléphone, par exemple, tout simplement. Des sans-papiers ont participé dans les communications téléphoniques, etc. Et ensuite, organiser effectivement aussi en fait des actions de solidarité du genre, participation au don du sang, etc., courses pour les personnes isolées, etc., etc. Donc ça a été organisé par le biais du groupe WhatsApp mis en place par les sans-papiers, du comité des sans-papiers. Et ça nous permet donc aussi d'avoir effectivement une vision de là où les camarades qui sont les 200 personnes, là, parmi les 200 camarades sans-papiers, ceux qui sont dans les foyers, comment ça se passe. Alors, on ne nous a rien signalé de particulier, de particulièrement problématique, effectivement. Il y a eu des problèmes, effectivement, au début de distribution des moyens de protection, etc., dans les foyers où habitent les camarades sans-papiers du groupe WhatsApp, donc parmi les 200 camarades qui sont dans le groupe WhatsApp. Bon, on ne nous a rien signalé de particulier, en tout cas à ce niveau-là, en tant que tel, quoi. Donc, par contre, effectivement, l'aspect bombe sanitaire dans les centres de rétention et dans certains foyers, nous avons particulièrement vu les camarades de Paris, la région parisienne, communiquer là-dessus et nous envoyer donc, en fait, notamment, il y a une pétition et une déclaration, effectivement, que nous avons co-signée en tant que comité des sans-papiers pour appuyer, effectivement. Là, par contre, on a eu des échos, y compris dans notre groupe WhatsApp, de la part des camarades sans-papiers d'ici, qui sont en contact avec des gens, des sans-papiers qui sont dans des foyers ou qui sont, je sais pas, en centre de rétention, effectivement, en région parisienne notamment, quoi, en tant que tel. Alors, nous sommes intervenus, je l'ai dit tout à l'heure, très rapidement en termes de déclaration en direction de la préfecture sur la situation, effectivement, des premiers cas au début du confinement. Quand les sans-papiers qui étaient au centre de rétention posaient leur acte qui consistait à dire nous refusons d'aller manger tous ensemble sans précaution, nous avons donc effectivement fait une déclaration pour dénoncer effectivement cette situation-là et demander la libération de tous ceux qui sont en centre de rétention, quoi, concrètement. Et c'est dans la même semaine effectivement que le juge des libertés a quasiment vidé les centres de rétention de l'écrit. Voilà ce que nous pouvons dire de façon globale. Le contexte dans lequel nous sommes et comment nous tentons effectivement de nous organiser.
Alors justement, avec le déconfinement qui commence là, quelles sont les conséquences ?
Donc nous préparons la sortie en juin, ça c'est clair, depuis qu'ils ont annoncé le déconfinement. Donc là il y a une discussion effectivement avec les sans-papiers, entre les sans-papiers pour préparer la sortie en juin, en tenant compte de deux choses. Un, ce que dit les mesures gouvernementales d'interdit, parce qu'ils disent pas plus de 10 personnes regroupées, etc. Ça, c'est clair que pas plus de 10 personnes, c'est de fait empêcher nos manifestations. Hein. C'est clair, on est au minimum, je dirais même ultra minimum 10, et souvent beaucoup plus, concrètement. Et nous tenons effectivement nos manifestations du mercredi, hein. ça c'est net. Nous sommes prêts à respecter toutes les lois et les mesures pour ne pas apparaître comme ceux qui vont mettre en danger la vie d'autrui, etc., etc., parce que nous voyons bien, hein, tout acte un peu irresponsable peut être utilisé de ce point de vue, non seulement par les fascistes, mais par le gouvernement lui-même, hein, très clairement, contre nous. Ça, on est très conscient de ça. Mais on prépare effectivement la sortie physique, effectivement, en juin, courant juin, très nettement, quoi. Voilà ce qu'on peut dire, en tout cas, pour faire l'état des lieux de notre situation à l'heure actuelle, du mouvement des sans-papiers à Lille.
Est-ce que, en tout cas, vous pouvez peut-être donner des moyens de vous contacter et de suivre vos informations ?
Oui, pour nous suivre nos informations, on a nos Facebook, c'est CSP59, hein, qui est un moyen pour nous contacter. On a un blog aussi, CSP59, et aussi, effectivement, je dirais, le nouveau moyen qui est le WhatsApp là, bon, mais ça, les camarades qui s'en chargent vont développer, en fait, cet outil-là, je ne saurais pas en parler, moi-même, je suis complètement nul dans ce domaine-là. Bon, je ne connais pas ces moyens-là, techniques nouveaux là, qui me dépassent un peu. Mais ceci dit, si j'ai un message particulier à donner au nom du comité des sans-papiers, effectivement, dans la période actuelle, très concrètement, c'est de dire la chose suivante. Il y a un certain nombre de députés et d'associations, organisations, effectivement, qui ont lancé, et même y compris issus du mouvement des sans-papiers, nous en faisons partie en tant que comité des sans-papiers, et je pense que les Parisiens aussi, eh bien, qui lancent l'idée d'une régularisation globale, massive, hein, les sans-papiers, concrètement, donc c'est la formulation historique du mouvement des sans-papiers, la régularisation de tous les sans-papiers. Les Portugais l'ont annoncé à leur manière, les Italiens à leur manière, tout dépend du niveau d'organisation des sans-papiers en tant que tel. Il est grand temps, effectivement, que le mouvement des sans-papiers, qui a historiquement été coordonné à l'époque par la Coordination nationale des sans-papiers avec beaucoup d'actions nationales à l'époque, eh bien, reprenne un peu du poil de la bête et que les sans-papiers sortent massivement, parce que c'est la condition de la régularisation massive. Si on veut obtenir la régularisation massive, il faut que les sans-papiers sortent partout massivement et s'auto-organisent massivement en lien avec le mouvement démocratique de ce pays et le mouvement syndical pour exiger la régularisation de tous les sans-papiers. Nous, comité des sans-papiers, nous prendrons toute notre place dans ce mouvement collectif que nous espérons, national.
Effectivement, Monsieur Anzouman Sissoko me parlait de trois grandes revendications en temps de confinement, qui étaient donc la régularisation inconditionnelle de tous les sans-papiers, la fermeture des CRA et la suspension des loyers du foyer pendant le temps du confinement. Est-ce que ces deux premières revendications, donc la régularisation et la fermeture des centres de rétention, finalement, ne sont-elles pas des revendications que vous portez même en dehors des temps de confinement ?
Évidemment, mais nous y ajoutons une chose, le droit de vote à l'immigration. Il est clair que nous lions la lutte de l'immigration, la partie illégale de l'immigration, celle qui est contrainte et forcée à être mise en situation illégale par les lois qui fabriquent des sans-papiers tout simplement, avec le fait qu'effectivement il y a un lien avec les luttes de l'immigration régulière. Et ça, c'est, nous semble important. Troisième point qui nous semble important, c'est le lien guerre et sans-papiers. Ce pays ne peut pas continuer, effectivement, et l'Europe, de façon générale, les États-Unis en plus, continuer à faire des guerres partout, produire effectivement des gens qui sont forcés à l'exil et après se barricader au nom de et refuser de régulariser les gens. Il faut être très clair, quoi. Donc, nous ajustons le droit de, trois revendications de Sissoko-là, avancées par Sissoko. Eh bien, nous ajustons ces trois revendications-là aussi, à savoir, effectivement, un, le droit de vote à l'immigration, deux, la question effectivement de plutôt de la question du lien de la lutte pour la paix contre les guerres, ça me semble important. Après, on peut ajouter contre les dictatures, etc. L'aspect solidarité avec les peuples africains qui luttent aussi, bon, ça c'est une autre dimension, quoi, concrètement. Mais ces deux éléments-là, éléments principaux qui fabriquent les derniers, dans la dernière période, effectivement, la vague des migrants et des exilés, c'est les guerres, ce sont les guerres de l'OTAN, les guerres effectivement en Libye, guerre en Syrie, etc., etc. Guerre dans le Sahel, il faut être clair, très nettement, où des soldats français meurent d'ailleurs, ça nous ajoutons cet élément-là. Concrètement, il me semble que le pays de Anzouman est un pays directement touché par ça, le Mali, en tant que tel. Deuxième élément, le droit de vote à l'immigration à toutes les élections.
Donc M. Sissoko m'a parlé d'un appel à une manifestation le 30 mai. Est-ce que au niveau donc local du nord de la France, il y aura un appel local pour cette manifestation ?
On en a discuté la fois dernière, effectivement, dans le groupe WhatsApp de cet appel. C'est moi-même qui ai donné l'information de l'existence de cet appel pour le 30 mai, la sortie pour le 30 mai, concrètement. Alors, nous n'avons pas tranché ça. Nous avons dit, effectivement, qu'on se donne le temps de réflexion par rapport à ça, sur les questions tactiques qui sont liées aussi, effectivement, à la revendication de la régularisation de tous les sans-papiers. Une des armes possibles contre le mouvement et la revendication actuelle posée dans le contexte, effectivement, du confinement, et de la lutte contre la pandémie du Covid-19, c'est tout acte peut être utilisé effectivement contre le mouvement des sans-papiers en termes de nous faire passer pour des gens irresponsables qui s'en foutent des Français, qui veulent mettre la vie des Français en danger, etc. Donc ces questions, ces considérations effectivement qui semblent considérations effectivement tactiques ou secondaires, sont pour nous dans notre démarche en tout cas militante très très importantes. C'est-à-dire construire une image, effectivement, non pas d'opposition aux Français, mais justement de complémentarité, de vivre ensemble, effectivement, dans l'objectif, effectivement, du progrès démocratique dans ce pays et de la régularisation de tous les sans-papiers. Donc, c'est de ce point de vue que nous posons la question de savoir, effectivement, le 30 mai, là, quelle sera la situation, exactement, qui permettra, effectivement, d'envisager d'une sortie. Si nous sommes toujours confrontés, effectivement, à une forme de confinement qui n'ont dit qui consiste à dire, effectivement, on ouvre les écoles de façon crescendo, et ensuite, il y a tels endroits qui sont accessibles, tels endroits, le nombre de personnes qui peuvent se mobiliser, etc., ou qui peuvent être ensemble, en fait, à un endroit donné, très clairement. Donc, c'est tout ça que nous sommes en train d'étudier pour voir la faisabilité du 30. Donc, nous ne sommes pas, pour le moment, effectivement, dans la position qui consiste à dire non au 30 ou oui au 30, mais la question est effectivement de savoir quelle est la situation au moment où on arrive vers le 30, concrètement pour dire et préparer la sortie. Nous voyons plutôt en juin, parce qu'à un moment donné, la tactique du gouvernement qui consiste effectivement à maîtriser la sortie, nous devons la prendre en compte très concrètement en tant que mouvement des sans-papiers, pour ne pas être contre-productif par rapport à une image qui serait une image dangereuse déjà largement construite par les médias De ce point de vue, le rapport de force ne nous est pas très favorable, quoi. Donc voilà un peu l'état de notre réflexion là-dessus. Mais nous répondrons effectivement au moment opportun à cet appel pour le 30 juin. Le 30 mai. Voilà.
Nous venons donc d'écouter M. Anzouman Sissoko, porte-parole du comité des sans-papiers 75, puis M. Roland Diagne, porte-parole du comité des sans-papiers 59.